Notre Église étudie Ésaïe, mais par moments nous entrecoupons ce gros morceau de l'Ancien Testament et nous regardons quelques thèmes. Et encore ce matin, nous voulons regarder cette idée que la famille est comme une petite Église. C'est le théologien Jonathan Edwards qui disait « Chaque famille chrétienne devrait être en quelque sorte une petite Église ». Bien sûr, nous ne devons pas confondre les deux, l'Église et la famille, ou les interchanger complètement. Il y a des choses que l'Église fait, qu'une famille ne peut pas faire. Il y a des choses qu'une famille fait, que l'Église ne peut pas faire. Et en ce temps de confinement, nous voulons rappeler que l'isolement où chacun reste chez soi n'est pas la norme définitive ou souhaitable. Il nous tarde d'être tous ensemble, les jeunes et les moins jeunes, les familles, les célibataires, toute situation de vie. Mais c'est vrai qu'au sein de nos foyers, dans nos familles, on veut retrouver pas mal des activités qu'on pratique aussi à l'Église. On veut trouver la louange, on veut trouver la prière, on veut trouver l'étude de la Bible, on veut retrouver la discipline, on veut voir l'autorité spirituelle s'exercer, on veut voir l'unité, on veut voir la formation de disciples, de nos enfants, mais de tout membre, de toute personne. Le mari, le père, est appelé à jouer un rôle de conducteur spirituel pour sa famille, comme un pasteur en quelque sorte. Et lorsqu'il n'y a pas de père chrétien, notre Père Céleste peut combler ça et équiper les personnes pour prendre le relais. Donc oui, nous voulons vivre la foi en tant que famille, et chaque famille comme une petite église. Et pour ça, j'aimerais regarder une famille dans la Bible qui peut nous encourager. Il s'agit de la famille de Noé. Alors, le texte biblique ce matin se trouve en Hébreux chapitre 11, juste un verset, le verset 7, que je vais vous lire maintenant. Hébreux 11, verset 7, qui parle de Noé, de sa foi, de sa famille. Donc, Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. J'ai retenu cette histoire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme beaucoup ont remarqué, Noé et sa famille, c'est ceux qui ont vécu le confinement le plus extrême, certainement, de toute la Bible. Il a passé un an dans cette arche où il y avait une seule petite fenêtre avec sa famille. Donc déjà pour ça, il fallait de la patience, de la foi. Mais aussi, ce verset parle de la famille. Ce verset dit que par la foi, Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Et il est bon de rappeler que l'arche était un projet de famille. L'apôtre Pierre, notamment, rappelle dans ses deux lettres que dans cette arche, il y avait 8 personnes. C'était un petit nombre, certes, mais c'était une famille. Il y avait Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. Ça fait 8 personnes. Un détail curieux que j'ai relevé en étudiant, c'est que dans l'arche, il n'y avait pas d'enfants en bas âge, parce que Noé n'a eu des petits-enfants qu'après le déluge. Et on va dire que c'était pas plus mal de ne pas avoir de petits bébés dans l'arche. Je sais que mon épouse serait assez traumatisée de voir un petit ramper un peu partout sur un bateau au milieu d'une tempête avec tous ces animaux. Pas évident. Mais il y avait une famille dans cette arche et la foi de Noé a embarqué toute sa famille dans ce salut du déluge. La famille, les enfants de Noé étaient au bénéfice de sa foi et de sa démarche de foi, de sa vie de foi. Et ce chapitre nous parle de ces personnes, Noé, Abraham et d'autres, pour nous encourager à imiter leur foi. Bien sûr, pas dans les circonstances exactes que eux, ils avaient à vivre. Nous n'avons pas tous à vraiment construire une arche ou à quitter notre pays comme Abraham ou à défier le Pharaon comme Moïse. Mais leur foi, nous pouvons l'imiter. Et donc l'appel de ce matin, pour nous parents, pour nous tous, c'est d'avoir cette foi qui embarque notre famille dans un projet de salut, une foi comme celle de Noé. Et donc j'aimerais regarder cette foi, dans ce verset je retiens plusieurs aspects de cette foi. D'abord c'était une foi dans des choses invisibles, C'était une foi qui persévère dans le temps. Et c'était une foi dérangeante. Nous allons voir ces choses. Une foi dans les choses invisibles, une foi qui persévère, une foi dérangeante. Tout d'abord, une foi dans les choses invisibles. Le trait important de tout ce chapitre, chapitre 11, l'Épître aux Hébreux, que nous sommes appelés à imiter, c'est bien sûr la foi. Cette foi, elle agit sur la parole de Dieu, des fois avec des obstacles dans un monde incrédule. Elle agit sur la parole de Dieu, elle fait des choses, mais elle fait des choses en fonction de l'invisible. Ce que le verset 1 a déjà souligné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis Noé, c'est ce qu'il a fait, il était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Même trait de la foi chez Moïse, en verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, comme voyant celui qui était invisible. Vous voyez ce trait de la foi qui agit en fonction des choses invisibles. Et Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, notamment la pluie, le déluge des eaux. Noé n'avait jamais vu la pluie. Les gens ne savaient pas ce que c'était qu'un déluge des eaux de cette ampleur. Combien de fois Noé a dû expliquer à sa famille, bientôt il y aura le déluge, un déluge des eaux, selon ce que Dieu m'a dit. Oui, mais ses enfants ou d'autres pouvaient dire, oui, mais les experts scientifiques, ils disent bien que la pluie n'existe pas. Que faire? Papa, tous nos voisins, ils ont un terrain de foot dans leur jardin, nous, c'est toujours le chantier. Mais Noé, par la foi dans ces choses invisibles, par la foi qui vient de la parole de Dieu, il dit oui, mais je vais quand même continuer à faire ce que je fais pour sauver ma famille. Vous voyez, Noé a fait des choix de vie, des choix d'investissement, de temps, d'énergie, par la foi. Il a fait des choix que le monde a dû trouver bizarres, parce que le monde ne voyait pas des choses. Le monde ne s'intéressait pas à la parole de Dieu, à écouter cette parole. Mais Noé, il voyait ce déluge venir alors qu'il était invisible. Et il a agi ainsi. C'est notre défi aussi, c'est vivre la famille par la foi, dans des choses invisibles. Vous savez, certainement pour l'avoir essayé, qu'il faut la foi de nos jours pour transmettre une éducation chrétienne à nos enfants. Autour de nous, d'autres valeurs sont mises en avant. Nos enfants voient les autres, ils voient la marque de leurs vêtements, ils voient ce qui semble important. Et nous les ramenons souvent à des choses invisibles. C'est pas toujours évident. Comme Noé, nous voulons suivre les instructions de Dieu, c'est-à-dire sa parole, la Bible. Et cela par la foi. Par la foi, nous savons que connaître Dieu, connaître Jésus est mieux que toutes les autres connaissances. Mais juste à regarder comme ça, c'est parfois difficile à croire. Mais par la foi, nous savons que connaître Jésus, c'est mieux, c'est plus important que connaître bien d'autres choses. Par la foi, nous savons que réussir l'éternité, c'est plus important que réussir l'école. Par la foi, nous savons que le bien et le mal sont définis par Dieu. Par la foi, nous savons que Dieu a un plan, une volonté pour la famille, pour le mariage, pour la sexualité, pour les rôles des uns des autres au sein du couple et de la famille. On ne voit pas ces choses autour de nous, mais par la foi, nous le croyons. Alors, en tant que famille, nous allons souvent devoir fixer nos regards sur les choses invisibles. C'est comme m'a dit un ami pasteur d'une grande église, et il dit, oui, tous les parents chrétiens de mon église me disent qu'ils veulent que leurs enfants soient sauvés et marchent dans la foi. Alors je leur dis, ok, montrez-moi votre agenda. Montrez-moi votre agenda du week-end, votre agenda du dimanche, votre agenda de la semaine, vos priorités. Et là, il dit, mais votre foi, c'est dans les choses visibles. Vos choix sont en fonction des choses visibles et pas les priorités qu'on peut avoir lorsqu'on voit les choses invisibles. Donc Noé avait cette foi divinement avertie des choses qu'on ne voyait pas. C'est ça qu'il a entraîné sa famille dans des choses invisibles. C'est ça la foi. Noé avait aussi une foi qui persévère. C'est le deuxième point. Une foi qui persévère. Une foi à long terme. Notre défi, comme celui de Noé, c'est oui, nous croyons la parole de Dieu, nous croyons en Jésus. Et maintenant, c'est de traduire cette foi dans un projet, dans une manière de vivre. Un projet à long terme. Parce que le verset dit que Noé, par la foi, a construit une arche. Alors, quand on regarde les détails du livre de la Genèse, quand les dimensions nous sont données de cette arche, les dates de l'âge de Noé, l'âge de ses enfants, et puis aussi le petit nombre qui travaillait à la construction de l'arche, Noé certainement travaillait avec ses fils pour construire cette arche, mais voilà, juste quelques personnes pour un si grand projet. Donc, entre les dimensions et les dates et le petit nombre qui travaille, on sait que ce projet de construction de l'arche a dû prendre longtemps. Pas un jour, pas une semaine, pas un mois, mais certainement sur plusieurs années. 20, 30, 40 ans. Et cette foi qui tient dans le temps est ce qui aussi a sauvé la famille de Noé. D'ailleurs, c'est ce trait de foi qui c'est le thème le plus important de l'Épître aux Hébreux, une foi qui persévère, qui continue, qui ne revient pas en arrière. Et dans chapitre 11, on nous donne tous ces héros de la foi, comme on dit, pour montrer que ces personnes-là, ils avaient une vie de foi, et leur foi a tenu dans le temps. Abraham, c'était année après année qu'il devait attendre cet enfant, qu'il devait croire dans ce pays promis, qu'il n'a jamais vraiment pu voir dans le plein accomplissement. Les patriarches, c'est en mourant qu'ils restent dans la foi. Donc vous voyez, une foi qui persévère. Et pour construire une arche, voilà, c'est pas juste un jour, c'est une vie de foi. Et je pense que c'est ce genre de foi qui va impacter nos familles aussi. Pense à Noé, c'est pas un clou, c'est pas une seule planche qui a sauvé la famille de Noé. C'est toutes ces planches, c'est tous ces clous, c'est tout ce travail année après année qui a permis à ce que le bateau flotte un jour lorsqu'il y avait de l'eau. Certainement, il y avait des jours où ils n'avaient pas trop envie de travailler sur le bateau. Il y avait des jours et des moments de fatigue. Il peut y avoir des tensions au sein de la famille. Mais on regarde dans le temps et ils ont construit ce bateau. De la même manière, nous pouvons être encouragés. Avec cette foi, un projet de foi pour notre famille. C'est sûr, c'est pas un seul verset, c'est pas un seul culte de famille qui va forcément révolutionner la vie de vos enfants. Cette constance qui construit une connaissance de l'Évangile dans le temps, c'est ça qu'il nous faut. Et c'est par la foi. Vous allez faire un culte de famille, vous allez lire la Bible à vos enfants, vous allez administrer une discipline. Toutes ces choses, vous pouvez faire par la foi. Sur le moment, ça peut-être semble inutile ou insignifiant, si petit, comme mettre un clou dans l'arche. Mais par la foi, sur les années, dans le temps, vous allez construire une connaissance de Dieu, une connaissance du salut, une connaissance de Jésus, de l'Évangile, qui peut marquer votre famille, vos enfants. Une foi qui persévère. Une foi qui voit des choses invisibles, une foi qui persévère. Et enfin, mon troisième point. Que la foi de Noé était une foi dérangeante. Pourquoi je dis cela? Le verset dit que c'est par la foi qu'il construisit une arche, et par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, par l'arche, Noé a condamné le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela veut dire que Noé était un voisin intolérant, désagréable, un esprit hautain de jugement qui voulait toujours condamner les autres? Non, je pense pas. Mais le simple fait de construire une arche par la foi déjà était une remise en cause de la vie et de la culture et du monde autour de lui. Si quelqu'un demandait à Noé pourquoi il construisit l'arche, vous comprenez que sa réponse pouvait jeter un froid dans la conversation. Il disait, sa réponse était, oh, c'est un hobby, c'est un loisir personnel. Non, la réalité, c'est qu'il dit, je construis cette arche parce que Dieu va juger le monde pour ses injustices, son péché. Et déjà de dire ça, tout gentil qu'il pouvait être, Noé, c'était en quelque sorte condamner le monde. C'est un peu pareil pour ces chrétiens hébreux à qui cette lettre était destinée. Ils étaient persécutés parce qu'ils croyaient que Jésus était le Messie. Bien sûr, ces Hébreux n'avaient rien contre la culture juive, ils n'avaient rien contre la loi de Moïse, ils n'avaient rien contre l'Ancien Testament. Mais en plaçant leur foi en Jésus, ça sous-entendait que le judaïsme ou la religion ne pouvait pas les sauver, ne pouvait pas les réconcilier à Dieu. Et en croyant en Jésus, quelque part, ils condamnaient la religion de leurs compatriotes et ce monde religieux qui s'était construit autour. Et parfois, ça nous arrive aussi. Nous voulons vivre par la foi, paisiblement, avec amour, avec bonté. Mais vous avez eu certainement l'impression qu'en exprimant votre foi, en disant que vous êtes chrétien, que vous croyez que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, ou en parlant de ce que vous êtes repenti de vos péchés, tout ça, ça peut déranger. Bien sûr, nous ne voulons pas déranger inutilement. Nous ne voulons pas manquer d'amour, ou de tact, ou de sagesse dans nos rapports avec d'autres. Mais le simple fait de croire en Jésus comme le seul chemin, c'est déjà remettre en cause l'homme, l'idée moderne de l'homme, qui peut se sauver lui-même, qui se suffit à lui-même, qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et je sais que ce n'est pas toujours évident pour nous, nos familles chrétiennes, à notre époque, de vivre notre foi, d'avoir ce courage qui embarque toute la famille dans des choix, dans des convictions, dans des styles de vie qui peuvent déranger notre entourage. Peut-être vous avez les grands-parents ou la famille élargie ou les collègues, les voisins qui peuvent se sentir condamnés par votre foi. Nous voulons les inviter aussi à saisir le salut en Jésus-Christ, comme Noé prêcher la justice et la porte de l'arche est restée ouverte. Mais déjà en construisant une arche, c'était en quelque sorte de condamner le monde et ses valeurs et son péché. Alors des fois notre foi dérange, mais pensez au jour où il vaut mieux être dans l'arche qu'en dehors et vous pouvez continuer à vivre votre foi avec courage, avec amour, avec de patience. Oui, par la foi, Noé a sauvé sa famille. Bel exemple de foi, belle famille. Bien sûr, et je termine avec cette idée, au sens strict, ce n'est pas la foi de Noé qui a sauvé sa famille. On est bien d'accord, c'est l'arche qui a sauvé sa famille du déluge. Quand les eaux, quand la pluie a commencé, c'était l'arche qui a flotté et qui a protégé la famille. C'était Dieu qui a donné cette arche, qui a sauvé Noé. De la même manière, c'est pas notre foi au sens strict qui sauve nos enfants. C'est leur foi qui va leur sauver, tout comme pour chaque individu. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. C'était pas notre foi qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve dans ce sens. Tout comme dans la famille de Noé, chaque membre a dû entrer individuellement dans l'arche pour être sauvé. Même si Noé leur a donné envie, même s'ils ont construit cette arche ensemble, si Noé était entré tout seul sans sa famille, eux ils auraient péri aussi. Mais donc chaque membre a dû entrer dans l'arche. De la même manière, pour nos familles, même une famille chrétienne, chaque membre de la famille doit se réfugier individuellement en Christ dans une démarche personnelle. Et ce salut, la manière que Noé a sauvé sa famille, c'était un salut du déluge, le déluge historique que Genèse nous raconte. Sa famille a été préservée de ce déluge. Pour, en ce qui concerne le salut éternel, spirituel de chacun de ses enfants, ça c'est peut-être autre chose. Nous voyons par la suite, au moins un de ses enfants, Cham, ne semble pas avoir partagé la foi de son père et le vouloir honorer Dieu ainsi. Et son fils Canaan, vous connaissez le pays de Canaan, son fils Canaan, c'était le petit-fils de Noé, et leurs descendants se sont éloignés de Dieu et par la suite ont été maudits et jugés. Donc, chacun est appelé à exercer une foi personnelle, individuelle en Dieu. Mais pendant le temps que Dieu nous les confie, nos enfants, nous voulons leur donner accès au salut de Dieu. Nous voulons pratiquer cette foi de Noé dans des choses invisibles, une foi qui persévère, et une foi qui risque de déranger ce monde parce que nous croyons qu'il y a un jugement, mais aussi un salut par la foi. Nous voulons donner de bonnes raisons à nos enfants, entrer chacun dans cette porte. Nous voulons construire ensemble notre foi, les uns avec les autres, comme Noé a fait avec sa famille. Alors que Dieu nous aide à la faire, qu'il nous donne cette foi, qu'il saisit ses promesses pour nos familles, pour nos enfants, pour les générations à venir. Il veut toucher non seulement des individus, mais des familles. Et pour cela, nous voulons demander son aide et son secours, et qu'ensemble, par la foi, nos familles puissent goûter ce salut en Jésus-Christ. Je vous invite à terminer par la prière. C'est vrai, Seigneur, nous avons besoin d'exemples de foi pour nous-mêmes vivre la foi, et nous te remercions des exemples vivants que tu donnes au sein de la famille, au sein de l'Église. Nous te remercions aussi pour les exemples de ta parole, des hommes comme Abraham, comme Moïse, comme Noé ce matin que nous avons étudié, qui ont vécu par la foi, et par cette foi, ils ont obtenu ton salut, ta bénédiction, ta justice. Et nous te prions qu'au sein de nos foyers, nous puissions vivre cette foi, que chaque famille soit comme une petite église où chaque membre pratique sa foi, une foi qui se réfugie en Jésus-Christ pour le salut, une foi qui veut te plaire, une foi qui aime ta justice et ta loi. Toutes ces choses, nous te prions de nous les accorder. Bénis notre Église en ce temps encore. Donne-nous la force, la patience, comme Noé, attendre, à patienter, que ce soit en confinement ou dans d'autres situations peut-être pénibles. Nous savons que tu es avec nous et tu peux te glorifier. Bénis ce temps. Merci pour ce temps que nous avons eu ensemble. Et nous te prions de nous accompagner tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons encore chanter un dernier cantique. Mais n'hésitez pas à prendre un temps en famille pour prier et revoir l'histoire de Noé, peut-être la fiche d'envol que vos enfants ont fait, de regarder ces choses. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous en toutes circonstances. Bon courage à chacun, aux familles, aux personnes seules. On pense bien à vous.